7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Et bonsoir Olivier Poujade.
Bonsoir Nicolas.
On part au Brésil où la classe politique semble voler en éclats, Olivier, à quelques mois des Jeux Olympiques.
Oui, d'importantes manifestations sont attendues dimanche dans tout le pays contre la présidente Dilma Rousseff, mais également une mobilisation de son propre parti, le Parti des Travailleurs. À l'origine de cette contestation, un scandale, un de plus, celui du lavajato, parti d'une affaire de blanchiment d'argent dans une banale station de lavage de voitures, mais qui est en train de révéler ou de confirmer une corruption généralisée. Un homme dirige l'enquête, le juge Sergio Moro, dans sa ligne de mire, la présidente Dilma Rousseff, sous le coup d'une procédure de destitution, et derrière elle, toute une série de personnalités politiques, dont l'ex-président Lula. Situation aussi complexe qu'incroyablement scandaleuse que vous allez tenter de nous décrypter, Anne Vigna. Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Alors vous êtes notre correspondante au Brésil. Anne, dans cette enquête qui touche de nombreux secteurs de la société brésilienne, une nouvelle condamnation vient d'être prononcée, celle de Marcelo Odebrecht, 9e fortune du Brésil, PDG de l'entreprise de BTP du même nom, présente dans 28 pays, qui emploie 180 000 personnes. Marcelo Odebrecht vient d'être condamné à 19 ans de prison, peine qu'il serait en train de négocier contre des révélations qui pourraient être compromettantes pour la présidente Dilma Rousseff, c'est ça ?
Oui, alors en fait, le juge Sergio Moro serait proche de mettre au jour hein, le lien qui lui manque encore entre le Parti des Travailleurs et des versements occultes qui auraient été réalisés par ce groupe Odebrecht. Jusqu'à présent, l'entreprise avait réussi à convaincre ses cadres, qui sont emprisonnés depuis 10 mois maintenant, de ne pas collaborer avec la justice, à la différence de 43 autres accusés qui, eux, ont fait des accords de délation avec le juge en échange d'une peine plus clémente. Mais la sentence de Marcelo Odebrecht a changé le panorama pour ces hauts cadres, dont 4 hein, ont également été condamnés à 8 et 10 ans de prison cette semaine. Alors une délation d'un des cadres de Odebrecht manque encore pour confirmer les soupçons de Sergio Moro sur des versements de Odebrecht à João Santana, qui a été en fait le conseiller en communication des campagnes présidentielles de Lula et Dilma Rousseff depuis 2008. Alors João Santana a été emprisonné avec son épouse il y a 2 semaines suite à une convocation à comparaître de Sergio Moro, et selon les informations qui ont fuité dans la presse, il aurait reconnu avoir bien perçu des versements occultes de Odebrecht, mais il a nié leur lien avec les campagnes présidentielles du Parti des Travailleurs. Mais si un nouvel élément, une nouvelle délation fait ce lien, le processus de destitution de la présidente qui est en route hein, en sortira forcément renforcé et Lula sera certainement impliqué.
L'ex-président Lula, Anne, l'étau se resserre hein, autour de lui. Comment réagit-il ?
Alors, il est monté au front, en fait, dès la fin de son interrogatoire un vendredi dernier. Il a appelé ses partisans à le soutenir. Il a nié en bloc toutes les accusations. Les procureurs, eux, considèrent au contraire que Lula a bénéficié de beaucoup de faveurs, hein, ce sont leurs mots, de la part de 3 grands groupes du BTP qui sont tous enquêtés dans ce scandale. Alors, le parquet de São Paulo a annoncé hier qu'il allait bien poursuivre l'ancien président, mais aussi sa femme et leur fils aîné, pour occultation de patrimoine et blanchiment d'argent. Le délit concerne en fait une résidence qui est au nom d'une des entreprises citées et dont Lula nie être le propriétaire. Mais le parquet de São Paulo considère avoir des preuves du contraire et la justice enquête également sur les dons de ces mêmes entreprises à l'Institut Lula, qui est l'institut qui gère en fait les activités de l'ancien président depuis 2011. Selon cet institut, ces dons sont légitimes, mais la justice les soupçonne d'être liés à l'argent détourné de Petrobras. Donc en résumé, Lula n'est pas encore mis en examen dans l'affaire Petrobras, mais son capital politique n'est plus du tout le même. Jusque-là, il était encore le meilleur joker du Parti des Travailleurs en cas de destitution de la présidente et en cas de convocation à des nouvelles élections présidentielles. Mais désormais, sa candidature est pour le moins compromise.
Ce qu'on va rappeler pour terminer, Anne, c'est que cet énième scandale de corruption s'est allé jusqu'ici dans la presse. Hein. Appel à manifester dans la rue dimanche de l'opposition, mais également des partisans de l'ex-président Lula. Tout le monde cherche en fait le soutien populaire hein, dans cette histoire, dans cette série de scandales, car finalement personne ne semble avoir les mains propres, c'est bien ça ?
Oui, et c'est là toute l'inquiétude de la population brésilienne, en fait, qui se demande bien qui va diriger le pays dans quelques mois. Alors, il faut bien comprendre, en effet, que cette opération qui complète deux ans ce mois de mars déstabilise totalement les pouvoirs en place, le gouvernement, bien sûr, mais l'opposition n'en sort pas forcément renforcée. Si on en croit le contenu de certaines délations qui fuitent dans la presse, à ce jour, les quatre derniers dirigeants du Brésil seraient cités dans les accords de délation, l'actuelle présidente Dilma Rousseff et Lula du Parti des Travailleurs, mais également Cardoso et Color qui sont dans l'opposition. Le parquet enquête également les présidents de la Chambre des députés et du Sénat soupçonnés d'avoir bénéficié de pots de vin, mais les campagnes de l'opposition ont également été financées par ces mêmes entreprises, dont Odebrecht. De fait, Aécio Neves, opposant malheureux à Dilma Rousseff lors de la dernière présidentielle, serait également cité à quatre reprises dans les délations. Donc vous voyez bien que si la présidente est destituée, personne n'est en mesure de savoir qui pourra aujourd'hui la remplacer, comme le prévoit la Constitution. Et si des nouvelles élections présidentielles sont convoquées, les candidats sont aussi et à l'heure actuelle une énigme.
Merci à vous, Anne Vigna, correspondante de France Inter à Rio. Grande mobilisation prévue donc ce dimanche au Brésil. Les services de communication des partis d'opposition s'activent pour attirer les manifestants. Ils diffusent même des tutoriels de chorégraphie sur Internet avec ce slogan « Sois patriote, viens défendre ta nation, dehors Dilma, dehors Lula ».
Et du Brésil, on se dirige maintenant vers la Corée du Sud, Olivier, où se dispute en ce moment ce combat homérique, titanesque entre l'homme et la machine.
Vous en avez forcément entendu parler, ce face-à-face entre Lee Sedol, champion du monde de jeux de Go, et AlphaGo, le monstre de technologie de Google. Eh bien, l'ordinateur persiste et signe aujourd'hui, Nicolas, deuxième victoire ce matin de l'intelligence artificielle face à la matière grise. Rien n'est encore joué, la partie se dispute en 5 manches, mais cela semble très mal engagé pour Lee Sedol. Frédéric Ojardias, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Frédéric, vous êtes à Séoul, vous avez assisté à la deuxième manche. C'est un pas déterminant que sont en train de franchir les développeurs de l'intelligence artificielle, car ce qu'il faut préciser, c'est que la stratégie du jeu de Go est si complexe qu'elle a longtemps, très longtemps, été considérée comme hors de portée des ordinateurs. Et les premiers résultats contredisent totalement cette théorie. Vu d'ici, c'est absolument fascinant. Comment cette partie est-elle suivie en Corée du Sud?
Eh bien, ce face-à-face historique soulève une passion extraordinaire, et pas seulement en Corée. Le jeu de Go est d'origine chinoise, il compte 40 millions de joueurs, essentiellement en Asie, et cet affrontement du siècle, comme il est surnommé, est diffusé en direct par les télévisions coréennes, japonaises et chinoises. Voici ce que m'a dit avant le match Cho Se-hee, journaliste de la télévision coréenne.
C'est un événement vraiment énorme en Corée. Le Go est un jeu populaire ici, et le joueur Lee Sedol est une vraie star sportive. J'espère qu'il va gagner, bien sûr. Tout d'abord parce qu'il est coréen et ensuite parce que c'est un humain. Même si je sais, les ordinateurs finiront un jour par l'emporter.
Oui, mais voilà, au bout de deux parties très tendues, la machine a terrassé le champion coréen. Deux défaites qui ont fait l'effet d'une bombe. Personne ne s'attendait à ce que le logiciel soit aussi fort. Les spécialistes pensaient qu'un tel événement n'arriverait pas d'ici une décennie.
Alors justement, comment les spécialistes, ces spécialistes dont vous nous avez parlé, ont-ils réagi à ces victoires de la machine ?
Ils étaient en état de choc. L'un m'a dit avoir été obligé de sortir de la salle pour retrouver ses esprits. Écoutez la réaction d'après-match du commentateur, l'américain Chris Garlock.
C'est un moment absolument historique. Ce que j'ai trouvé incroyablement émouvant, et c'est le plus bel hommage à ce logiciel, c'est qu'au milieu de la partie, nous avons d'une façon oublié que c'était une machine. Et on a commencé à parler de lui comme si c'était un être humain. Sans exagérer, j'ai senti la présence d'une intelligence stupéfiante.
Mais les joueurs assurent que les ordinateurs n'enlèveront rien au plaisir du jeu, comme ces deux représentants de l'association américaine de Go.
Il semble que la victoire de l'ordinateur Deep Blue n'a pas tué les échecs. L'ordinateur ne tuera pas le Go.
Nous avons eu 30 ans pour nous habituer à l'idée que les ordinateurs seront meilleurs que nous.
Et il y a tant d'autres choses que les machines font mieux que nous et que nous aimons toujours faire. Même si nous avons inventé les motos, nous continuons à courir et nous faisons toujours le Tour de France.
Un marathon comparable au Tour de France. Que sait-on, Frédéric, précisément de cette intelligence artificielle?
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que DeepMind n'a pas été conçu spécifiquement pour le jeu de Go. C'est un logiciel inspiré par le cerveau humain. Il est capable de progresser par l'apprentissage. Il a par exemple déjà appris à jouer à une cinquantaine de jeux vidéo. Et pour le Go, il a réussi à simuler l'intuition humaine. Et le champion sud-coréen, battu deux fois, n'en revient toujours pas.
Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que l'intelligence artificielle joue de façon aussi parfaite. Au milieu du jeu, AlphaGo a commencé à placer ses pions sur des positions très inattendues. Il a fait des coups qu'aucun humain ne ferait.
Alors, on l'a dit, Frédéric, le match n'est pas encore terminé. Il se déroule en 5 manches. Lycédol a encore une mince chance de l'emporter, mais pour Google DeepMind, on peut dire que le pari est déjà gagné?
Oui, elle a montré de façon éclatante que son intelligence artificielle est capable de continuer d'apprendre et d'évoluer. Demis Hassabis, le fondateur de DeepMind, a rappelé que le jeu de Go n'est qu'un moyen de mettre à l'essai ces technologies révolutionnaires.
Nous voulons utiliser ces technologies pour autre chose que des jeux.
Notre objectif à DeepMind, c'est de construire des machines généralistes capables d'apprendre. Ces algorithmes, comme celui pour le Go, progressent grâce à l'expérience et ne sont pas préprogrammés pour une tâche spécifique. La véritable intelligence artificielle est capable de flexibilité, d'adaptation et d'inventivité. Elle apprend à s'adapter à l'imprévu.
Ses créateurs imaginent déjà d'innombrables applications, comme par exemple des ordinateurs capables de converser avec les humains dans un langage naturel ou capables d'aider un médecin à établir un diagnostic médical.
Merci Frédéric Ojardias, correspondant pour France Inter et RFI à Séoul.
Fascinant. Allez, on prend comme chaque jeudi maintenant des nouvelles de l'Europe avec un rapide crochet par Strasbourg, Olivier.
Un dilemme aujourd'hui pour le Parlement européen, tiraillé entre ses impératifs de sécurité et son image de marque. La thématique est toujours mystérieuse, mais Quentin Dickinson saura mieux que quiconque nous éclairer. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Olivier, bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Alors la préoccupation peut sembler secondaire en pleine crise migratoire, mais elle provoque pas mal de controverses. Il s'agit de la sécurité des députés quand ils se déplacent en voiture, c'est bien ça?
Oui, c'est cela. Et depuis toujours, le Parlement européen possède en propre un nombre limité de véhicules, 13 berlines et 5 minibus pour être précis, et pour assurer la noria des 751 eurodéputés de la gare ou de l'aéroport vers leur lieu de travail à Bruxelles ou à Strasbourg, il est fait appel à deux entreprises belges qui fournissent de lourdes berlines allemandes avec 150 chauffeurs. Mais voilà, à la suite des attentats à Paris, à la demande des autorités des pays d'accueil, Belgique, Luxembourg, France, l'institution parlementaire se trouve dans l'obligation d'améliorer considérablement ses pratiques en matière de sécurité, qui, il est vrai, étaient jusque-là assez détendues. Le Parlement européen avait donc commencé l'année dernière par l'internalisation du gardiennage des immeubles, avec pour résultat qu'ont été recrutés surtout les vigiles licenciés par leur employeur qui venait de perdre son contrat avec le Parlement européen. Le projet en débat en ce moment consiste à acheter ou à prendre en location bail une considérable flotte de voitures, de recruter 110 chauffeurs garantis non radicalisables et de vêtir ceux-ci d'une tenue identique.
Oui, bah a priori tout est logique jusqu'ici. Alors où est le problème, Quentin ?
Bien, le problème, c'est le coût. C'est le coût qui porterait le budget transport de l'institution de 7 millions d'euros annuels à 10 millions, même si l'achat de véhicules ne serait évidemment pas répété chaque année. L'uniforme des chauffeurs, probablement un simple complet veston gris de pièces, est évalué à 1000 euros par an et par personne, c'est pas rien tout de même. Les véhicules seraient dotés d'un système d'alerte à distance en cas d'agression et les chauffeurs devraient se familiariser avec la conduite défensive. La priorité serait donnée à des véhicules éco-responsables, nous dit-on, de gamme moyenne supérieure, issus de toute la production européenne et non pas seulement de 3 des 5 marques allemandes. Il n'en a pas fallu davantage pour que la bonne centaine d'élus eurosceptiques fassent assaut d'ingéniosité sur le thème « Le Parlement européen veut acheter des limousines et embaucher des valets en livrée ». Et d'ajouter que ce serait désastreux pour l'image du Parlement, ce qui d'ailleurs en bonne logique devrait plutôt les réjouir. En attendant, l'image du Parlement risque déjà de souffrir de la situation actuelle, car les entreprises privées sous-traitantes de location avec chauffeur font l'objet de multiples plaintes de la part de leurs salariés pour non-conformité au droit du travail belge et européen.
Comme chaque jeudi, l'histoire de Quentin Dickinson. Merci Quentin, correspondant de Radio France à Bruxelles.
Allez, pour finir Olivier, nos amis suisses qui se paye une belle barre de rire.
Oui, le sujet est pourtant très sérieux, hein, Nicolas. Il s'agit d'une campagne de promotion du rire utilisée comme méthode thérapeutique dans les hôpitaux pour aider les patients à guérir.
Le rire médecin, comme
et
on dit.
Et pour nous vendre cette méthode, Johann Schneider Hamann, le président de la Confédération suisse en personne, se fend d'une allocution télévisée. Il nous donne sa définition du rire.
Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Reste encore à savoir pourquoi on rit. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire, à mon avis. En revanche, rire de bon cœur, avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur.
Alors, tout ça, en tout cas, ça fait rire.
Tout ça dure pendant 5 longues minutes, totalement soporifique, mais au final, oui, c'est plutôt drôle.
Ouais, c'était un crevé de rire. Merci Olivier Poujade.